Projection privée.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Berlin. Ce soir, les résultats seront proclamés de cette 66e Berlinale, le premier grand festival international de l'année, qui sera suivi évidemment de plusieurs autres festivités, Cannes, Venise, etc. Et pour en parler, puisque maintenant nous avons vu tous les films de la compétition et fait des découvertes aussi dans les sections parallèles, j'ai réuni donc plusieurs critiques internationaux. Dan Fenaroud de Screen International, qui vient d'Israël, Xavier Le Herpeur pour La Septième Obsession, une nouvelle revue de grande qualité, Paolo Mereghetti du Corriere della Sera, Gerhard Milling du Berliner Zeitung et Alex Vicente de El País. Voilà, donc ces messieurs parlent très bien le français, je m'excuse, il n'y a pas de dame, voilà, on va encore être fustigés. Pour parler donc de cette Berlinale avec un jury un peu curieux tout de même, puisque il n'y a qu'un seul metteur en scène au jury, c'est assez curieux, Malgorzata Zalazumowska, une réalisatrice polonaise. Et en dehors de cela, ben, ce sont essentiellement des comédiens. Il y a quatre comédiens, dont une, non des moindres, Meryl Streep, mais aussi Lars Eidinger, un acteur allemand, Clive Owen, le fameux acteur britannique, et puis Alba Rohrwacher, la comédienne italienne, dont la sœur d'ailleurs est également une réalisatrice reconnue. Et il y a également deux outsiders. Ça fait plaisir de voir que tout de même, un de nos confrères, Nick James, le rédacteur en chef de Sight and Sound, est au jury, parce que ça fait des années et des années que Venise et Cannes snobent le métier de critique, pas assez glamour pour monter les marches. Et puis, la très bonne photographe, Brigitte Lacombe, donc, qui est française, tout en vivant à New York, qui a fait beaucoup de portraits remarquables. Donc, ils vont donner leur verdict. Mais enfin, je m'étonne tout de même un peu que les metteurs en scène soient aussi peu présents, alors que c'est eux qui ont une vue d'ensemble du cinéma, par définition. Donc, cette compétition, alors on va commencer à en parler. Évidemment, Berlin est obligé de faire des découvertes parce que les plus gros morceaux sont déjà préemptés par le Festival de Cannes. Parfois, ils prennent des films qui ont été refusés déjà par Cannes, qui les a vus en novembre, décembre, et qui a renoncé à assurer leur présence à Cannes. Donc, c'est une sélection très cosmopolite. Alors, vraiment, énormément de pays sont représentés. La France, pour une fois d'ailleurs, n'est pas du tout négligé, ce qui arrivait assez souvent à Berlin, puisque le nouveau film de Mia Hansen-Love et celui de André Téchiner sont en compétition. Et il y a même hors compétition, on ne sait pas pourquoi, enfin deux films français, le film de Kerven et d'Elépine avec Gérard Depardieu, et puis le film de Dominique Moll qui fait un retour en forme avec des nouvelles de la planète Mars. Qui avait été découvert avec Harry, un ami qui vous veut du bien, qui avait déçu ensuite, mais je pense que ce film rétablit sa cote. Alors, d'abord, votre impression d'ensemble, Paolo Mereghetti.
Bon, ça n'a pas été un festival qui me semble extraordinaire. Il y avait des choses intéressantes, mais il y avait aussi, il me semble, des films qu'on se demandait pourquoi il était en compétition. C'est vrai que ça s'est passé surtout les premiers jours, donc, mais on est habitué que les premiers jours, il y a des feux d'artifice dans tous les festivals. Et cette année, Berlin est parti avec plutôt une situation comme ça. Le film canadien Boris Saint-Béatrice, l'histoire d'un mec très sûr de soi-même, qui a une femme qui était ministre dans le gouvernement, mais qui est entrée dans une grande crise et que doit se confronter avec cette crise de cette femme. Il n'a pas envie de le faire, et il y a quelqu'un, un étrange personnage français, parce que c'est interprété d'un acteur de Denis Levent, voilà, qui l'oblige. C'est une espèce de magicien, on comprend pas qu'est-ce que c'est, un psychanalyste comme ça. Et puis m'a déçu aussi beaucoup le film américain de Jeff Nichols. Oui, que je sais que notre ami Michel Simon aime à la folie, mais non.
Il est pas le seul.
Ouais, mais je pense d'avoir quelqu'un qui n'a pas aimé comme moi ce film. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a des pouvoirs extraordinaires. Au commencement, on comprend pas pourquoi. Il y a une secte religieuse qui le veut. Il y a l'FBI, bien sûr.
On va vous l'expliquer, Paolo. Moi, ce qui me frappe tout de même dans ce festival de Berlin, c'est que quoi qu'il fasse, l'actualité lui colle à la peau, c'est-à-dire que, et pas au mauvais sens du mot, mais vraiment l'actualité lui colle à la peau. J'ai vu un grand journal français, par exemple pour Le Monde, pour ne pas le citer, c'est un très très bon article de Thomas Sentinel sur la première semaine à Berlin, et les seuls films dont il parlait, c'était des films qui parlaient des malheurs du monde, et il faut en parler, c'est-à-dire 4 documentaires qui étaient le sujet de l'article. C'est-à-dire Berlin, pour les gens, c'est vraiment le festival des premières pages des journaux, des événements politiques, sociaux, économiques. Ces 4 documentaires, je vais les citer, peut-être qu'on peut commencer par parler de ça, pour obéir à la règle que Berlin, c'est le politique. Il y a un film en compétition, et cher Paolo Mereghetti, c'est votre compatriote, ouais, qui fait vraiment la majorité des votes, c'est de loin le film préféré de la presse internationale, donc Fuoco Amare de Gianfranco Rosi. Il y a un film israélien de Avi Mograbi, Entre les barrières. Il y a du grand documentariste chinois Wang Bing, Taang, sur la Birmanie, sur les minorités Taang. Et puis le film de Michael Moore, Qui d'autre à envahir, où Michael Moore va en Europe, plutôt que d'envahir les pays comme, dit-il, l'armée américaine ne cesse de le faire, lui, il envahit les pays européens pour voir tout ce qui marche bien et qui ne marche pas aux États-Unis. Voilà. Mais donc ces 4 films, ça devient l'accent mis sur Berlin. Alors qu'est-ce que, peut-être sans s'étendre sur chaque film, est-ce que vous pouvez, Xavier Leverpoix, par exemple, dans ces 4 films, qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a des films qui vous avez retenus particulièrement?
Ah ben moi, il y en a un qui a été mon coup de cœur absolu, qui m'a vraiment lavé les yeux et qui a été en plus un point de comparaison assez peu favorable pour les autres. C'est le film de Wang Bing, qui dure 2h30, qu'on ne voit absolument pas passé, qui est un petit miracle de ce que doit... Alors, il n'y a aucune règle tacite, bien évidemment, mais de ce qu'on pourrait espérer que soient les documentaires, c'est-à-dire que, effectivement, vous l'avez dit, ce sont des Birmans qui fuient une guerre qui apparaîtra dans la toute dernière demi-heure et de manière quasi abstraite, hors champ, on entend quelques bruits de combat, et subitement, ces gens qu'on nous dit être des migrants, mais qu'on a vu plutôt sédentaires jusque-là, sont obligés de fuir, de construire un abri sur une route. C'est absolument magnifique, c'est-à-dire que sans jamais biaiser son sujet, sans jamais induire quoi que soit, il le raconte. Il a un sens de la dramaturgie avec zéro moyen. Il a un sens de la lumière et du cadre qui est bouleversant. Il y a un moment des femmes qui se couchent l'une sur l'autre pour pouvoir dormir, on dirait un tableau de Vermeer éclairé à la bougie. Donc non seulement c'est un grand regardeur, un grand scrutateur du monde, il sait raconter une histoire sans du tout manipuler son récit, il sait regarder des gens, et en plus c'est d'une beauté absolue. Et ça m'a redonné vraiment confiance dans la force testimoniale et salutaire du documentaire, là où d'autres documentaristes ont cédé un peu à la théorie et au formel pour justement induire un peu leurs idées.
Alex Vicente.
Je n'ai eu l'occasion que de voir le film en compétition, donc Fuoco Amare de Gianfranco Rosi. En tout cas, je trouve que c'est intéressant que la réflexion sur un sujet comme la crise des réfugiés, par exemple, ne soit pas limitée à une dépêche d'agence ou un sujet d'une minute au JT. Le documentaire dans ce festival offre un point d'observation qui permet une réflexion plutôt posée, avec un format complètement différent. Après, j'ai des petites réserves sur le
Mais c'est
le
sur la Sardaigne, de... c'est ça sur
Non,
sur...
non la Sardaigne, Lampedusa.
C'est Lampedusa.
Une île entre la Sicilie et la Libye. Plutôt voisin à la Libye.
C'est un documentaire qui confronte deux sphères sur cette île. D'un côté, l'arrivée des réfugiés, et de l'autre, une famille de pêcheurs qui vit paisiblement dans l'île et qui ne s'inquiète pas trop pour ce qui arrive. Pour moi, le problème, c'est le mélange de ces histoires qui ne se fait pas toujours d'une façon très, très juste et très équitable. Déjà, on n'entend pas parler les réfugiés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et puis, le personnage du gamin, du fils de cette famille de pêcheurs, me pose problème aussi parfois. Je trouve qu'il s'en sert comme une espèce de... il fait un peu de chantage émotionnel par rapport à ces personnages-là. Et surtout, on ne voit pas de confrontation entre les deux mondes. Donc... Si l'idée c'était de parler de deux sphères différentes sur la même île, ça aurait été pas mal de voir une petite confrontation aussi, car on sait comment ça se passe sur place. Et on voit bien que pas tout le monde est très accueillant de ces réfugiés.
Donc vous n'êtes pas au diapason de l'enthousiasme un peu général.
Alors pour moi, le problème c'est que si vous voulez, le niveau a été tellement bas la deuxième semaine de la compétition qu'un film comme celui de Gianfranco Rosi ressort du lot d'une façon très claire. Car c'est un documentaire avec beaucoup de qualité quand même si j'ai certaines réserves.
Dans
Donc à mon avis, ça va se jouer entre ce film-là et probablement le film de Mia Hansen Love.
On a mentionné, c'est toi, c'est vous Michel, qui avez mentionné le film israélien de Avi Mograbi, qui est aussi sur des films des réfugiés, mais Avi Mograbi est un metteur en scène un petit peu à part. Il crée son événement et fait un documentaire sur l'événement qu'il crée. C'est pas vraiment un documentaire, c'est plutôt l'histoire de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, c'est qu'il est descendu dans un camp de réfugiés au sud du pays, et il a organisé avec les réfugiés une psychodrame, si on peut dire, où eux, ils jouaient toutes les péripéties qui les ont amenés de l'Érythrée, en particulier de l'Érythrée, du Soudan, jusqu'en Israël, pour échapper aux atrocités auxquelles ils étaient subis chez eux. Il y a un genre d'ironie, un genre d'humour qui est tout à fait particulier à Avi Mograbi. Il a toujours été très soucieux du fait qu'il ne prétend pas montrer toute la réalité, c'est-à-dire qu'il se met dedans dans le film, il est toujours dedans dans les films, le film ne montre ni les péripéties elles-mêmes, ni les victimes. Et ce qui est impressionnant dans le film, pour moi au moins, c'est cette façon, cette énergie qui ont ces réfugiés-là, qui ont passé des moments terribles, et pourtant, ils ont pas tellement le pouvoir, mais l'envie de sourire, et ils ont la foi dans la vie, ce qui est assez étonnant pour quelqu'un qui passe des moments assez graves. C'était mon impression à moi.
Si je peux revenir au film de Gianfranco Rosa un peu, parce que je pense qu'il va gagner au moins un prix. Je partage des réserves d'une partie. Le grand débat dans la critique allemande, c'était pourquoi est-ce que les réfugiés n'ont pas une voix dans le film, parce qu'on voit, beaucoup avec une certaine nostalgie, la vie rurale chez les pêcheurs à Lampedusa, mais il y a quelques scènes où on voit vraiment le sort des réfugiés, leur douleur, mais ça colle pas apparemment avec l'histoire que raconte vraiment Gianfranco Rosi, comme il a raconté, par exemple, dans Sacro Gra, son film sur la périphérique de Rome. Je pense qu'il y a deux raisons pour ça. La première, il n'y a pas vraiment de rapport entre les réfugiés qui restent pour 2 jours sur cette île et les gens qui y habitent.
Ils ont un avis sur la question, j'imagine, quand même. Même s'ils cohabitent que 2 jours, ils ont un avis sur l'arrivée massive des réfugiés. C'est quand même particulier de faire un documentaire de plus de 2 heures sans entendre aucune réserve sur cette arrivée ou sans entendre les vrais protagonistes de l'histoire, qui sont les réfugiés, je trouve. Après, n'empêche que certaines images et certaines... En tant que document, ça a une vraie valeur, si vous voulez. Mais je trouve que le point de vue du réalisateur n'est pas toujours très fin. Voilà.
Alors, Paolo Merighetti, il faut rappeler que Gianfranco Rosi a remporté un Lion d'or à Venise il y a 2 ans avec son précédent film. Alors, vous, en tant qu'Italien, comment vous trouvez ce nouveau travail?
La première fois que j'ai vu le film, j'ai eu un peu quelques problèmes parce qu'il me semblait que les garçons, que la vie dans l'île, c'était trop fort par rapport à l'autre chose. Mais puis, en le voyant une deuxième fois, j'ai pu comprendre mieux le travail qu'a fait Gianfranco Rosi. Il avait une commande pour un court-métrage sur l'île et donc il a essayé de comprendre comme ça. Et puis il a pensé et il a compris que la seule façon de parler des réfugiés, de ce drame, c'était partant de le comportement de ces gens. Et donc il a trouvé des petites choses dans le comportement des personnes. L'occhio pigro, l'œil qui ne voit très bien de l'enfant, la vieille zia Maria qui, quand elle écoute à la télévision, à la radio, l'arrivée d'eux, il dit « Ah, ces pauvres chrétiens, comme ça ». Et il est parti de là pour jeter des petites idées, de quelques sospetto, quelques suspicions aux spectateurs pour qu'ils comprennent le drame. En Italie, on en a marre de ce problème. Tous les jours, à peu près, il y avait des débarquements. Et donc, c'était devenu seulement une fait pour la politique, pour la propagande. Je veux, je ne veux pas les... En Italie, il y a des partis qui ont fait sa fortune politique sur les refus des réfugiés. Voilà. Et donc, je pense que le travail de Rose, c'était de redonner, de remettre les problèmes sur les pieds. Donc, parler des Italiennes et de comment il voit ce problème, comment il affronte ce problème. Et c'est fondamental dans le film, le rôle du médecin.
Alors, je voudrais maintenant parler de deux films qui sont aux deux extrêmes, peut-être, de ce que Berlin peut présenter, où on présente vraiment des choses expérimentales et puis des choses complètement extraordinairement classiques et traditionnelles. Alors, il y a un film anglais qui s'appelle Genius, le premier film d'un metteur en scène de théâtre, Michael Grandage, alors qui est ultra lisse. Enfin, mais c'est un sujet très intéressant parce qu'il s'agit d'un grand éditeur américain, de Scribner's, dans les années 30, qui était l'éditeur de Hemingway, de Fitzgerald, et surtout de Thomas Wolfe, qui est le héros presque de ce... avec lui, le héros de ce film. Et cet éditeur, Maxwell Perkins, c'est lui le génie. Ça fait plaisir au patron de Hollywood. Le génie, c'est pas Fitzgerald, Hemingway et Wolfe, c'est l'éditeur qui, devant un manuscrit de 5000 pages que lui présente Thomas Wolfe, « You can't go home again », décide de le réduire à 700, parce qu'il dit vous ayez des lecteurs, ça, si vous voulez tout de même continuer à écrire, il faut avoir des choses. Bon. Et donc c'est lui le génie. Alors ensuite, il y a l'autre extrême de la sélection, le film de Lav Diaz, un cinéaste philippin, qui est un film de 8 heures. Et alors là, on peut dire que le producteur n'est pas génial, parce que le producteur n'a pas réussi à réduire ce film qui fait 8 heures. Et Variété, qui est le business en Amérique, c'est étonnant, Variété félicite Berlin en disant c'est pas Cannes qui ferait ça. Mais finalement, parce que Cannes, en choisissant le film de Lav Diaz, il élimine 4 très bons metteurs en scène qui ne peuvent pas entrer en compétition parce que Lav Diaz a eu toute une journée de 9h du matin à 7h du soir avec une heure d'interruption pour présenter son film qui me paraît par ailleurs, mais ça c'est un jugement personnel, d'une extraordinaire banalité. Enfin, je veux dire, du point de vue du filmage, s'il ne durait pas, sa caractéristique moderniste, c'est la longueur. S'il dure 8 heures, parce que les scènes me paraissent d'une banalité. Et en plus, je ne comprends pas, il s'agit de la révolution. Alors vous allez répondre sans doute, il y a parmi vous des admirateurs, mais il s'agit de la révolution philippine contre l'occupant espagnol. Et ces gens sont dans la nuit, ils organisent avec des fusils, etc. Ils ont une peur bleue d'être surpris par l'armée espagnole pour être exterminés. Et ils jouent de la guitare, qui est quand même extrêmement suspect. Moi, je crois que je serais dans la résistance en France ou ailleurs. Je ne jouerais pas de la guitare pour que l'armée allemande vous me repère tout de suite.
Alors, ne soyez pas de mauvaise foi.
Alors voilà, maintenant, Lav Diaz, on peut en parler. Peut-être que le film sur Maxwell Perkins, c'est pas mal joué, etc., mais enfin, c'est pas un événement. Lav Diaz, pour certains, est un événement. Alors, s'il y a des défenseurs, qu'ils lèvent la main, ou même des gens qui peuvent parler de ce film.
C'est une merveille.
Voilà.
Je suis à la fois, j'ai savouré chacune de vos paroles, Michel, d'une mauvaise foi absolue, mais terriblement drôle. Mais moi, c'est un film que j'ai vraiment aimé. Alors, effectivement, c'est une expérience, 8 heures. On ne va pas faire croire aux gens qu'à un moment, on n'est pas fatigué, que
c'est
le corps
Annapurna,
ne vous fait pas mal.
C'est l'Everest. Oui.
En même temps, c'est au-delà de l'exploit quand on a fini les 8 heures de film. D'abord, c'est effectivement le contexte plus que l'histoire de la révolution philippine contre les Espagnols. C'est un film absolument passionnant. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous sur la mise en scène et sur la banalité des scènes qui, au contraire, construit à la fois dans... Alors, elles sont toutes filmées en plan fixe et en temps réel, donc en plan séquence. Elles ont toute une fausse fin qui donne envie de voir la scène suivante parce que je trouve qu'au contraire, le scénario est remarquablement et très intelligemment écrit. Et c'est moins l'histoire au sens reconstitutif du terme que l'idée que l'histoire se crée aussi autour de mythes. C'est-à-dire qu'on va courir après le cadavre d'un révolutionnaire disparu qui va devenir une quête obsessionnelle, mystique, fantastique. On va être dans une forêt où on va croiser 3 sorciers qui sont dits de Macbeth assez étranges. Il y a des prostituées, garçons, filles qui passent dans l'écran. C'est un film qui ose le mystique, le fantastique, le tellurique, le chamanique. Et en même temps, moi, pendant 8 heures, j'ai été passionné parce qu'il y a toujours quelque chose de surprenant, de jamais gratuit. Alors oui, on discutera des 8 heures ou pas, mais dans l'ensemble, le film a une cohérence, une force et une flamboyance qui s'éteint parfois, qui renaît toujours et qui vraiment m'a levé les yeux, entre autres, effectivement, de Genius, qui est le film de studio où toutes les scènes sont plus inutiles les unes que les autres.
Alex Vicente.
Oui, je suis plutôt d'accord avec Xavier, peut-être un peu moins enthousiaste que vous, mais plutôt d'accord. En tout cas, je trouve que c'est un film qui a apporté un vrai geste de radicalité au festival, après une semaine de cinéma, comme vous disiez, ultra lisse, ultra conventionnel.
Mais la radicalité, c'est la longueur.
Pas que, non, je trouve pas. Dans la forme aussi, dans la construction par petites touches, de plans fixes, où il y a... Oui, dans chaque scène, il y a une idée, et petit à petit, il y a des petites touches, et ça se cumule, et ça finit par construire quelque chose. Après, je vois ça plutôt comme un geste radical, dans le sens aussi où... d'abord, en comparaison avec le reste de la compétition, et puis parce que... Même le dispositif que le festival a mis en place était très radical d'une certaine façon. Ils nous ont distribué des bracelets voilà, qui permettaient de sortir et de rentrer dans la salle librement pendant toute la journée, comme si c'était quelque part une installation de vidéo dans un musée qu'il ne fallait pas voir dans son intégralité, comme si c'était un cinéma duquel entrer et sortir, dans lequel s'endormir et se réveiller. Ça, c'est plutôt inhabituel dans un festival, et je trouve que ça portait quelque chose d'assez nouveau, en tout cas. Après, certains réserves sur le film aussi, qui est dans la démesure, qui est dans l'excès, qui est un peu dans la condescendance de soi-même aussi, quelque part, parfois, mais qui apporte quelque chose d'original, de fort et de courageux, quand même.
Paolo Merighetti.
Je suis d'accord avec les deux confrères. J'ai beaucoup aimé le film. Et ça, ce que m'a touché, c'est le fait que je suis entré dans le film. Il m'a pris. Cet rythme qui est plutôt lent, donc, mais qui c'est une espèce de vague qui me prend et qui m'a porté dans le film. Je me trouvais à la fin. À la fin, je pouvais rester encore quelques heures et ça n'aurait pas eu de problème. Oui, il y a une scène seulement qui m'a un peu, que j'ai pas aimé, c'est la scène du cinématographe. Aussi parce que les deux acteurs qui jouent un prêtre et une journaliste récitent très mal. Mais ça, c'est la seule chose qui j'ai pas aimé. Mais pour le reste, je pense que c'est vraiment une expérience. Et à la fin, si je dois faire une confrontation entre Genius et ce film imprononçable de Lav Diaz...
C'est une berceuse pour un mystère triste.
Voilà, un philippin c'est un peu compliqué. Et je dois dire que je suis pour le director's cut, parce que le film de Genius est contre le director's cut.
Mais Wagner me disait d'ailleurs qu'il avait regretté de ne pas faire des opéras de 14 heures, il s'était limité à 5 heures.
Voilà. C'est vraiment une expérience. Et comme le cinéma ne me donne très peu des expériences que j'ai eues en passé, le cinéma d'aujourd'hui et le cinéma à Berlin cette année. Donc, je suis totalement en faveur de ce film.
Culture, projection privée, Michel Simon.
Revenons peut-être à ce film américain, parce que le cinéma américain n'est pas toujours bien vu à Berlin. Il est un peu comme une sorte de canard boiteux qui arrive dans une compétition où se mêlent le radical et le conventionnel. Et que, comme disait Panofsky, deux dangers menacent l'artiste, c'est d'être une prostituée ou d'être une vieille fille. Et les gens qui se situent entre les deux n'ont pas beaucoup de chance. Et c'est ceux auxquels vont mes faveurs, c'est-à-dire qui acceptent de faire l'amour, et qui ne restent pas vierges. Alors donc, ce film... Midnight Special, quatrième film, de Jeff Nichols, après Mud, Take Shelter et son premier film Shotgun Stories. Comment vous le voyez? Moi, j'ai été assez séduit par le côté cinématographique, justement visuel de ce film. Alex.
C'est un film qui s'inscrit dans la continuité avec un certain cinéma de science-fiction des années 80. Et en même temps, il ne dégage aucune nostalgie et aucune ironie, ce qui me touche beaucoup, car je pourrais la comparer avec Super 8, le film de J.J. Abrams, qui avait une espèce de distance par rapport à ce qu'il racontait, qu'on ne trouve pas du tout ici. Il ne se cache pas qu'il a été inspiré par E.T. de Spielberg ou par Starman de Carpenter. Après, je trouve que le film n'est pas parfait. C'est très drôle parce que c'est un film qui mélange la maîtrise totale et l'imperfection presque totale. C'est très bizarre car normalement, on divise les cinéastes entre cinéma de la maîtrise et cinéma plutôt imparfait, ouvert à des interprétations différentes. Et dans son cas, il mélange les deux. Je trouve que la dernière partie manque un peu de finesse. Elle est un peu trop dans l'excès. Il y a un petit problème de direction artistique dans la dernière séquence. Puis les personnages ne sont pas toujours parfaitement dessinés, mais c'est un film qui permet beaucoup de lecture. Il y a un premier degré très classique, très américain, une histoire de différence, si l'on veut, un portrait de la différence. Et puis plusieurs clés de lecture en deuxième, troisième, quatrième degré, ce qui est très américain aussi, c'est un classique des grands récits américains depuis le 18e ou le 19e siècle, où l'histoire de surface est quelque part un peu banale, mais qui permet beaucoup d'interprétation.
Dan Fennaro.
Nichols arrive à mélanger un cinéma accessible avec un cinéma très exigeant, ce qui est très rare aussi. Donc pour moi, c'est mon film préféré de la compétition cette année.
Dan Fennaro.
Bon, alors là, j'ai des problèmes avec ce film. Parce que d'un côté, on a l'impression de voir un genre de film, road movie si on veut, où un père a kidnappé son propre fils d'une groupe de...
d'une secte religieuse,
et elle le chasse, cette secte-là, et il y a aussi les services secrets américains qui le chassent, et on doit se demander pourquoi on les chasse. Alors on se rend compte que l'enfant qu'il a kidnappé, c'est plutôt quelqu'un qui a des forces extraordinaires. Et puis, en fin de compte, on a une histoire. Et lorsqu'on sort du film, on se demande, d'accord, mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire dans ce film-là? Est-ce que c'est seulement ça? Parce que si c'est seulement ça, je trouve que ni les caractères, et ni la façon dont il est monté, ne sont pas extraordinaires, ne sont pas passionnants du tout. S'il veut dire plus que ça, je trouve qu'il est plutôt secret sur ce qu'il veut dire. Je peux en avancer des théories. C'est facile d'avancer des théories. Ça peut être la grande bataille entre les parents biologiques et d'un côté le monde spirituel et de l'autre côté le monde scientifique, si on le veut. Mais alors, dans ce code, si on le prend comme ça, ce sera un petit peu difficile d'accepter la forme de ce film-là. Voilà, c'est mon opinion.
Xavier Le Harper.
Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et je suis entièrement d'accord avec Alex. C'est-à-dire qu'il a à la fois l'exigence d'une intelligence de scénario, d'une construction. C'est un film qui va à l'encontre des canons habituels d'Hollywood, en tout cas actuels d'Hollywood. C'est-à-dire qu'on nous donne plein de pistes au début, effectivement. La religieuse avec cette secte un peu étrange, cet enfant qui est kidnappé, visiblement, et qui est capable de décrypter ou d'inventer des codes qui vont annoncer en tout cas des choses. Et puis en même temps, il va s'en débarrasser au fur et à mesure. Alors que le cinéma américain adore la surenchère, que tout est un sens, et qu'il y ait une connexion, une précision, tout ça. Il va s'en débarrasser pour aller à l'émotion, pour aller à une sorte de fulgurante. Moi, j'aime la fin parce qu'elle a une naïveté, comme ça, une candeur qui nous fait regarder comme les personnages vers le haut, vers le ciel, vers l'impossible, l'improbable. Et voilà. Et je trouve que mettre plein de fausses pistes comme ça, qui sont très judicieuses, qui disent beaucoup de choses de l'Amérique, pour justement, après, ne pas faire un film à thèse, mais faire un film sur la poésie, et on retrouve effectivement le cinéma des années 80 avec cette admiration, avec ce côté candide, avec ce côté non, l'étranger n'est pas nécessairement un ennemi. Je crois qu'il n'a pas envie de raconter plus de choses que ça, juste de nous éblouir, et moi, il m'a ébloui.
Gérard Billing, alors on va être assez rapide, parce que ce film va sortir très bientôt, au mois de mars, à Paris, en France. Votre sentiment?
Alors, pour moi, c'était... la chose intéressante du film, c'était le défi que le metteur en scène a présenté à lui-même. Parce que pour moi, Jeff Nichols, c'était surtout le réalisateur de l'enracinement de ces personnages. Mad, par exemple, c'est un exemple que ça. Donc, dans leur communauté, dans leur paysage, la fleuve, dans Mad, par exemple. Et maintenant, il essaye de couper toutes les racines qu'il a normalement dans son cinéma. Et alors, la fin m'a rappelé pas les films que vous évoquez, mais surtout Close Encounters of the Third Kind, le film de Spielberg, avec beaucoup plus des effets spéciaux que Spielberg, mais moins convaincante, je trouvais, la fin.
Alors, les films français, dont je le disais, étaient particulièrement présents. Deux en compétition, plutôt bien accueillis, en particulier le film de Mia Hansen, Love. donc L'Avenir avec Isabelle Huppert, qui a été, je crois, dans l'ensemble, fait partie des favoris pour le palmarès de ce soir, on verra. Et puis le film de André Téchiné, Quand on a 17 ans, qui marque pour beaucoup un retour de Téchiné en forme. Et puis deux films qui sont alors hors compétition, mais dans la grande salle, enfin traités comme des quasiment à parité avec la compétition. Saint-Amour, le nouveau film de Gustave Kervern et Benoît Delépine avec Gérard Depardieu. Et puis Des nouvelles de la planète Mars, dont de Dominique Moll, dont j'ai parlé au début. Alors, on va essayer d'être bref, parce que ces quatre films sortent incessamment sous peu, comme on dit. Donc, on va essayer de faire un lot. Si vous avez parlé d'un ou deux ou trois de ces films, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en particulier critique étranger, Paolo Merighetti?
Moi, j'ai beaucoup aimé L'Avenir de Mian Sunlop. J'ai trouvé un film très intéressant, parce que très bien joué. Isabelle Huppert est extraordinaire dans ce film, mais surtout c'est un film qui raconte la vie sans les drames, sans que les problèmes deviennent des mélodrames.
C'est
voilà.
Quoi, le problème?
Le problème, c'est que cette femme, après 25 ans de mariage, est laissée par son Marie, le fils ont une vie particulière, son éditeur ne veut plus ses bouquins de philosophie, et elle est tout seule.
À condition qu'elle les réduise, peut-être.
Oui, qu'elle fasse des choses qu'elle n'aime pas, des couvertures un peu colorées, des choses. Voilà, changer l'emballage, peut-être aussi ce qu'il y a dedans. Et donc, cette capacité de raconter la vie quotidienne qui n'a sans drame, sans des choses, sans que personne ne se déchire les vêtements, qui pleure toujours comme ça. On est habitué devant les drames du mariage, devant les drames du travail, comme ça. On s'attend des mélos. Ça pas. Et il y a une finesse dans cette façon de raconter la vie qui m'a complètement touché.
Gérard Méding, vous, sur ces quatre films, qu'est-ce que vous distinguez particulièrement?
Mon préféré, c'était absolument le film d'Andre Téchiné. Je pense qu'il retrouve un élan qu'il avait à l'époque des Roseaux sauvages, par exemple. Donc, c'était très bien pour lui de retravailler avec des jeunes acteurs, à la fois dans un registre très romanesque, comme on sait dans ces films, mais aussi il y a dans le personnage interprété magnifiquement, je pense, par Sandrine Kiberlin, la mère d'un garçon, qui un peu d'une façon adopte l'autre qui est l'ennemi de son fils. Et il y a quelque chose de très serein, je trouve, là-dedans. Aussi, la photographie de Julien Hirsch, la façon de filmer les montagnes et les gens là-dedans, donc l'ambiance, les relations d'espace est incroyable, je trouve.
Dan Fenaro.
Bon, je vais revenir un petit peu sur L'Avenir. J'ai aimé le film.
Mais
je crois que je l'aime un petit peu moins que Paolo, parce que pour moi, c'est un film, d'abord, c'est un film sur la vieillesse, sur le temps qui passe, sur les modes, même sur les modes de pensée, sur la philosophie qui change de mode avec les années qui passent, et avec la vie qui doit prendre un nouveau élan après un certain âge. Et je trouve peut-être que Mia Hansen-Love est peut-être un petit peu trop jeune pour s'attaquer à ce sujet-là. Peut-être qu'elle n'a pas encore, sur moi, l'émotion naturelle pour le faire. Par contre, je trouve un film qui est très bien fait et effectivement très bien joué. Par contre, pour moi, et peut-être je suis le seul ici, j'ai trouvé le film de Dominique Moll comme un genre d'insulte, parce que je trouve que c'est un film commercial de niveau très bas qui n'aurait pas dû être dans un festival. Mais c'est mon opinion à moi, peut-être qu'il n'y a personne qui la partage.
Alex Vicente.
J'ai beaucoup aimé L'Avenir, le film de Mian Sunlop. Je vais mettre un commentaire qui n'est pas une critique, mais c'est juste peut-être une grille d'analyse. Je trouve que la force et la faiblesse du film est Isabelle Huppert, qui est exceptionnelle dans ses rôles, qui lui va à merveille, ses rôles de prof de philo, abandonné par son mari, qui affronte la maturité, la vieillesse. Mais quelque part, je dirais qu'elle siphonne tous les films. C'est-à-dire que tout ce qui faisait la particularité du cinéma de Mio en Love, cette fragilité, ce côté un peu imparfait, est un peu effacé cette fois-ci. Et finalement, ça devient un film d'Isabelle Huppert, je trouve. Ce n'est pas une critique, car ça me va très bien que ce soit un film d'Isabelle Huppert. Mais je vois une évolution dans le cinéma de Mio en Love. Je suis moins convaincu par le film d'André Téchiné, que je trouve très bien construit. C'est un récit très classique de différence, de couvert de l'homosexualité, mais qui fait un peu 20e siècle, si vous me permettez de caricaturer un peu. C'est une histoire très basique, trop basique, indigne de la co-scénariste Céline Sciamma, que je trouve l'une des personnalités les plus intéressantes du cinéma français actuel. C'est un peu le roseau sauvage, comme vous disiez, en haute montagne. Ça n'apporte rien de très nouveau. Je le trouve vraiment trop simple. Je suis très déçu de ce film.
Alors, je voudrais parler de deux films, peut-être qu'ils seront au palmarès ce soir, mais aussi ce sont deux films qui m'ont vivement intéressé. Ça fait partie de ces films que Berlin peut se permettre de sélectionner, alors que Cannes est souvent hésitant. C'est un film d'abord d'un cinéaste polonais que je ne connaissais absolument pas, Tomasz Wasilewski, qui s'appelle « Les États-Unis de l'amour », qui est un film, pour être bref, qu'on pourrait dire entre Kieslowski, comme si trois des épisodes du Décalogue se retrouvaient mêlé dans un immeuble collectif où il y a plusieurs personnages, et puis une façon très crue aussi de regarder la sexualité, comme Ulrich Seidel peut le faire dans ses films à scandale autrichien. C'est un film qui me paraît intéressant. Et puis le film de Rafi Pitz, cinéaste franco-iranien, qui est un film qu'il a tourné aux États-Unis et qui est en trois parties sur un Mexicain qui franchit la frontière pour retrouver son frère qui est aux États-Unis. Et il y a trois étapes. Il y a un voyage avec un blanc qui le prend de autostop qui est terrifiant, une sorte de disciple de l'extrême droite américaine. Ensuite, ce frère qui est devenu sans doute un roi de la drogue qui vit dans un palace kitsch en Californie. Et puis finalement, la guerre d'Afghanistan où il se retrouve comme soldat. Alors voilà, deux films. J'aimerais avoir votre opinion parce que moi, ça fait partie des films vraiment... Enfin, on connaît Rafi Pitz qui a beaucoup de talent, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de lui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Paolo Merighetti?
Moi, j'ai beaucoup aimé le film polonais. Ça m'a très ému parce que l'histoire de ces quatre femmes de différents âges, qui n'arrivent pas à avoir leur félicité, leur vie complète. Et le film s'est ambienté dans la Pologne des années 90, donc il n'y a plus le communisme, il y a la démocratie, il y a un peu d'argent, il y a deux ou trois scènes qui nous rappellent que l'argent a tourné un peu à... Il y a plus d'argent dans les vies des personnes, mais il y a une solitude extraordinaire. Les quatre femmes, et à la fin, on sort du film avec un sens de malinconie, mais aussi de tristesse très grand, très fort. Et j'ai beaucoup aimé la mise en scène de ce film, la façon dans laquelle il cadre les personnes, les scènes. Ça, j'ai beaucoup aimé.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que son chef opérateur est le chef opérateur de Christian Mungiu, donc il se rattache aussi à l'école roumaine, qui regarde la réalité en face, et à la fois à sa tradition polonaise, à lui, bien sûr, Kieslowski, mais aussi l'école roumaine. Alex Vicente.
Je vais parler plutôt du film de Rafi Pitz, Soinero. Je suis un peu moins enthousiaste que vous, Michel. Je le trouve très scolaire, avec une vraie pauvreté d'argumentation par rapport au sujet qui était très intéressant, celui des immigrés mexicains qui débarquaient aux États-Unis et qui étaient des bénéficiaires ou des victimes de la Dream Act, c'est-à-dire de la loi qui permettait d'accorder une carte de résident aux personnes qui arrivaient illégalement sur le territoire américain en échange de leur engagement dans les forces armées. Le sujet est passionnant, mais la façon de d'y réfléchir est je trouve très appuyé, très explicite. La plupart de séquences sont très mal résolues. Il y a un sentiment d'improvisation très factice. Je ne suis pas du tout convaincu par ce film de Rafi Pitz.
Alors, qui a envie de le défendre
Moi, je trouve que c'est particulièrement. Ce n'est pas un film totalement accompli, mais c'est un film vraiment intéressant. C'est intéressant ce que vous dites, Alex, parce qu'il y a un sujet qui est le Dream Act, et du coup, vous projetez un film, et ça n'est pas celui que vous voyez sur l'écran, alors du coup, on est un peu déstabilisé. Moi, ce qui m'intéresse dans ce film-là, c'est que dans l'histoire d'un immigré mexicain, sans cesse renvoyé de l'autre côté de la frontière, qui finit par, très jolie scène d'ailleurs, le 1er janvier, par s'échapper et revenir aux États-Unis, et à chaque fois, il est expulsé. C'est-à-dire que la première scène dans la voiture, une forme de purgatoire, dont il sera expulsé à nouveau par le fait du hasard. Ensuite, il va toucher le paradis, un paradis artificiel, puisque son frère habite dans une maison merveilleuse et que pendant une nuit, le gamin croit que c'est vraiment sa maison. Personne d'autre que lui n'y croit, mais il a envie que ce rêve se concrétise. Il sera expulsé de ce paradis pour être enfin tombé dans l'enfer, l'enfer de la guerre, l'enfer. Et cette dernière partie est assez impressionnante, moi, je trouve, justement, à la fois contemplative, très anxiogène. Il y a un travail comme ça, tout en rupture sur le rythme. Et il sera à nouveau expulsé de cet enfer, comme si ce gamin n'avait d'autre destin que d'être constamment viré de là où il essaye simplement de s'abriter. Alors, le film est un peu long, le film n'est pas parfait, mais je trouve que plutôt que de traiter le Dream Act en film à thèse et dénonciateur, cette idée autour d'un personnage passionnant, vraiment romanesque, de raconter la même chose et d'autres choses également, m'a vraiment convaincu.
Soy Nero, voilà. Alors, oui, Dan Fenaro voudrait nous parler, lui, du Thomas Vassilevski.
Je vais revenir.
Les États-Unis de l'amour.
Voilà, je vais revenir sur ce film. D'ailleurs, parce que je crois être le seul ici qui a vu son premier film. Le premier film de Vassilevski qui s'appelait Flying Skyscraper. Je ne sais pas comment ça peut se traduire en français. En tout cas, je suis d'accord que c'est un film intéressant. Pourtant, pour moi, c'est un film où l'hystérie excessive de toutes les quatre femmes, en particulier de la première, du premier épisode, te rend un petit peu, te distancie de ce qu'il fait, c'est-à-dire on devient un petit peu spectateur et pas participant des films. Et c'est dommage, parce qu'il a vraiment un grand talent pour mettre des choses en image, et Oleg Mouton, selon moi, fait un travail très bon.
Vous êtes sur France Culture, projection privée, Michel Simon.
Alors, Gerhard Meding, vous allez nous parler un petit peu du mystère allemand, là, parce que d'habitude, il y a une quantité de films allemands. Là, il y a un seul film, une réalisatrice, Anne-Zora Berached, qui a tourné donc 24 semaines. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Et d'où vient ce désert un peu programmatique du cinéma allemand?
Pour répondre à la deuxième question, il y a juste un mot, Cannes, parce que tous les autres metteurs en scène attendent, espèrent de faire partie du Festival de Cannes. Il attend, je pense.
Oui, c'est ça, voilà.
Il y avait un autre film qui était prêt pour Berlin, qui s'appelle Wild, sauvage, qui était présenté à Sundance. Il y avait aussi les films de Marenade, par exemple. Et de Tom Tykwer qui était prêt, mais c'était un film, une adaptation de roman de Dave Eggers.
Ils sont jamais prêts, les films de Tom Tykwer. Ouais.
non, cette fois, c'est une question du coproducteur américain ou chinois qui voulait une autre première, donc pas Berlin. Donc, c'est une vraie nouvelle dans l'ère Koslik à Berlin de trouver juste
Koslik
un film.
Koslik étant le directeur du festival,
un grand défendeur du cinéma allemand. On ne comprend pas toujours pourquoi, mais il le fait quand même. Cette film, c'est assez intéressant parce que tous les metteurs en scène que j'ai, réalisateurs que j'ai nommés, sont des femmes, sauf Tom Tykwer, évidemment.
Et 24 semaines, alors.
Oui, alors, c'est l'histoire d'une jeune femme, une actrice comique, à la télévision ou dans les cabarets, qui attend son deuxième enfant, et qui est atteint par la maladie Down, le Down syndrome. Je ne sais pas le mot français, c'est le même.
Oui.
Et c'est le premier, disons, conflit dans un film sans conflit. Et la deuxième raison pour se questionner si elle va avorter le fils, c'est que peut-être il a un problèmes de cœur. Donc, c'est un film atrocement raisonnable, je trouve, qui touche, comme un téléfilm, toutes les questions, les résout très vite, évite tous les risques vraiment de... Tout le monde est gentil dans le film, il n'y a pas de conflit entre les personnages, pas vraiment.
Sauf la babysitter
qui est comme tout le monde, comme toutes les femmes dans le film, est blonde, mais qui représente une autre façon de réagir sur les choses extérieures, d'étranges en Allemagne.
Alors, je voudrais peut-être qu'on évoque alors, ceux qui l'ont aimé, peut-être plutôt que ceux qui ne l'ont pas aimé, soyons positifs, c'est le nouveau film de Thomas Vinterberg qui revient un peu à la veine de Festen, une sorte de drame scandinave, Ibsen, Strindberg, Bergman, mais avec tout de même quelque chose de plus, peut-être de plus optimiste dans sa vision de la réalité. Est-ce que vous avez été convaincu par ce film de Vinterberg ?
Pas tellement. Je trouve qu'il y a un sujet important qui n'est pas la commune, comme on l'entendait nous dans les années 70.
Oui, c'est le titre du film.
Oui, voilà, le livre amour et des choses comme ça.
Mais c'est pas non plus 1871, c'est pas la commune de Paris.
Oui, voilà, non, une façon révolutionnaire d'aller contre la bourgeoisie. Non, c'est plutôt l'idée que des amis peuvent vivre ensemble, confronter les problèmes qu'ils ont, mais à un certain moment, l'amour entre dans cette harmonie un peu compliquée et casse tout, parce que le fait que quelqu'un s'enamore d'une autre femme porte une grave crise dans cette commune. L'idée, c'était intéressant de parler de ce problème, mais il l'est fait dans une façon très, très facile. On sait où le film va arriver, et ça, c'est le problème.
Alors, dernière, qui nous reste vraiment une ou deux minutes, est une découverte dans les sections parallèles, panorama, forum. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, Alex Vicente?
Moi, j'ai beaucoup aimé le film de Terence Davis, A Quiet Passion, la biographie d'Emily Dickinson, qu'on a l'habitude de voir ou d'imaginer comme une petite fille naïve enfermée dans sa chambre. Et Davis, il fait tout le contraire. Il fait un portrait d'une femme mûre, un peu aigrie, romantique dans le pire sens du terme, jouée par cette actrice extraordinaire qui s'appelle Cynthia Nixon. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film et je ne comprends pas pourquoi il n'était pas en compétition.
Coldstone, c'est un film du Panorama de Johnny Ma. C'était un premier film chinois et c'est le meilleur du néo-réalisme et en même temps de la parabole. C'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui cause un accident. La personne est dans le coma. Il va s'endetter parce qu'il a un sens de l'honneur certain qui le pousse à payer tous les frais d'hospitalisation. Et évidemment, tout le monde va lui tourner le dos, sa femme, son employeur. Et le film se termine sur une ironie extrêmement mordante. C'est un portrait de la Chine contemporaine gangrénée par le capitalisme naissant. Et en même temps, c'est un vrai film de genre et un vrai film, dire d'observation d'un pays. C'est absolument formidable, ça dure 1h20. Johnny Ma, c'est un nom à retenir. Mato, je suis sûr que vous ferez un jeu de mots un jour entre Johnito et Johnny Ma. Michel, vous êtes le spécialiste, je vous laisse travailler dessus.
En tout cas, je suis d'accord avec vous sur ce film. Paolo Merighetti.
Moi, j'ai aimé le film de Spike Lee, Chirac, qui c'est une version musicale et rap de la Lisistrata.
C'est pas l'ancien président de la République française. Hein,
non,
ça se prononce
c'est Chicago. Irak, c'est Irak. Oui. Et le dernier film de Spike Lee me semblait moche, j'ai pas aimé. Mais ça, j'ai trouvé un rythme, une envie de faire des choses avec beaucoup d'ironie que j'ai beaucoup aimé.
Gérard.
Un film de comment allemand dans le forum qui s'appelle Havari, qui réagit d'une façon extrêmement rigide de la richesse ou superflu des images sur la crise des réfugiés par juste montrer un petit film qui était sur YouTube il y a un an, qu'il a élargi pour un film de 40-10 minutes. Avant, il avait tourné pour 30 journées, mais il a supprimé tout le tournage juste pour utiliser les bruits sur son film. Donc, réflexion, je trouve très, très rigide sur la question des images d'actualité.
Dan Fenaro.
Je vais mentionner un petit film turc qui est passé ici en génération. Il n'aurait pas dû passer en génération parce qu'il vaut beaucoup plus que ça. Un film qui s'appelle Raouf. Un film sur un garçon de 10 ans dans un petit village. le film dit très peu, mais il laisse comprendre beaucoup, parce que, par exemple, il se passe dans un village kurde, mais ce n'est pas mentionné dans le film. Il n'y a pas des gens entre 20 et 30 ans, mais ça ne, on ne le dit pas, on voit qu'ils ne sont pas là. Il y a un maçon qui ne fait rien d'autre que des coffins.
Des cercueils.
Des cercueils. Et puis il y a des bruits de la guerre qu'on entend la nuit, mais on ne voit jamais ni de guerre, ni de soldats turcs. C'est un film qui donne apparemment l'impression d'être un petit film sur l'éveillement sexuel d'un garçon de 10 ans, et qui dit beaucoup plus que ça. Il vaut vraiment la peine de le voir.
Alors moi, je recommande dans la même catégorie 14 ans, la section jeune, un film de Émilie Deleuze, film français qui s'appelait Jamais content, qui est drôle, rythmé, merveilleusement plein d'humour sur une petite fille, ses rapports avec son prof, ses rapports avec sa famille, avec sa sœur, avec sa mère. C'est absolument délicieux, donc qui aurait pu lui aussi échapper au ghetto des 14 ans. Voilà. C'était donc cette projection privée qui est simultanément envoyée de Berlin. Je remercie Dan Fenarou, Xavier Le Herpeur, Paolo Mereghetti, Gerhard Milling et Alex Vicente, qui ont parlé de ce festival en condensant leurs pensées, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine. On ne quitte pas tout à fait Berlin, mais on va bientôt le quitter en parlant avec Daniel Bleichrack, qui vient de publier aux éditions Leitmotiv, Bertolt Brecht et Fritz Lang, Le nazisme n'a jamais été éradiqué, un livre passionnant qui tourne d'abord autour de ce film célèbre Les bourreaux meurent aussi, de 1943, réalisé à Hollywood sur un scénario de Brecht et réalisé donc par Fritz Lang, mais aussi, en fait, une enquête très importante sur à la fois la personnalité de ces deux grands artistes, mais aussi du cinéma allemand des années 20, du travail de Brecht. Il ne faut pas oublier, Daniel Bleichrack, évidemment, vous le savez très bien, vous en parlez, que quand Fritz Lang tournait M le maudit avec Peter Lorre, l'après-midi, le soir, Peter Lorre, le même soir, allait au théâtre jouer sur les planches Homme pour homme de Bertolt Brecht.
Et surtout, voilà. Il mettait au point le gestus, c'est-à-dire toute la théorie de Brecht. Ça fait avec, au même moment. Et il y a une deuxième référence, c'est Alexanderplatz de Dublin. C'est un univers. Il y a des références communes, et j'ai essayé de suivre leur collaboration avant ce film, et de voir ce qu'ils avaient en commun, et parce qu'il y a tout un mythe sur les phrases dites par Bertolt Brecht qui sont redoutables, mais c'est un malotru, Brecht. Quand il est en colère, il engueule son copain Seisler, il est très dur. Mais il y a une collaboration à la fois politique, éthique et esthétique.
Et c'est vrai que ce que vous citez de Brecht, c'est dans son journal de travail où il est très dur à l'égard de Fritz Lang, mais ils avaient beaucoup de choses en commun, contrairement à ce qu'on peut penser. Évidemment, le cinéma est un art réaliste, donc la distanciation ne s'opère pas de la même façon, mais il y a dans le cinéma de Lang un recul aussi.
Totalement, oui. Il y a d'abord cet antinazisme fondamental des deux personnages, qui est le fond, la toile de fond, et leur pensée politique. Mais ce sont des artistes. C'est prioritaire pour eux aussi. Et par exemple, quand c'est Lang qui fait venir Brecht à Hollywood, et il fait tout, il paye, etc., c'est lui qui finance. Et quand il fait venir, parce que dans le fond, son problème, c'est le parlant aussi. C'est qu'est-ce qu'on va mettre du... Brecht est le plus grand auteur. Il a travaillé avec Kurt Weill avant de faire venir Brecht. C'est-à-dire qu'il est intéressé par le rapport. Comment rendre le cinéma parlant, encore universel, en dépassant justement ces cloisonnements linguistiques, comment travailler ces questions. Et je pense qu'on ne peut pas détacher la préoccupation artistique, esthétique, de la préoccupation politique.
Alors, leur collaboration se fait donc sur ce film, Les bourreaux meurent aussi, tourne autour de l'assassinat de Heydrich, le 27 mai 42, et le film est de 43. Il faut dire qu'Hollywood était très long à réagir au nazisme, mais enfin, ils s'y sont mis avec la déclaration de guerre, évidemment. Et c'est un film sur l'assassinat de Heydrich à Prague, Heydrich qui, plus que personne, symbolise vraiment l'extermination des Juifs.
C'est la première question que je pose au film. J'ai deux questions au film. La première, c'est pourquoi Heydrich. Heydrich, il a été un peu éclipsé par Eichmann.
Oui, c'est plus important encore que Eichmann.
Mais c'est beaucoup plus important. Eichmann dit qu'il n'est qu'un exécutant, ce n'est pas faux. Et c'est pas faux par rapport à Heydrich. Heydrich, c'est celui qui, depuis la nuit de cristal, en passant par l'entrée en Pologne, les massacres à la tête de la SS.
La conférence de Wannsee, où
toute l'administration allemande est convoquée pour
La
solution finale. Mais il prononce dans un texte le terme de solution finale bien avant. C'est-à-dire dès que les troupes rentrent en Pologne. Donc, pour moi, cet homme, qui par moments est assez fantastique, assez fou, assez bon, mais qui en même temps est profondément intelligent et rationnel. Donc, comment se fait-il qu'à aucun moment ne soit posée la question juive? Il est simplement le bourreau de Prague. Il y a deux allusions dans le film à la question juive. C'est dans les otages un homme avec un brassard et l'horloge de Prague juive qui tourne à l'envers. Et ce n'est pas la faute de Brecht, puisqu'il voulait que les otages se disputent. La deuxième question que je pose, c'est que tout le monde est parfaitement au courant de la conséquence quand il a été tué. C'est le premier haut dignitaire qui est tué. Or, Brecht et Lang s'entendent profondément, ils sont d'accord là-dessus, ils vont faire un complot. Ils vont faire l'histoire d'un complot dans lequel le peuple pragois fait exécuter un collaborateur à la place du véritable assassin, qui lui est un résistant. Alors, au même moment, on a un film de Douglas Sirk et un film de Jennings qui parle du massacre de Lydie. C'est une espèce de roi d'ours sur glane qui s'est passé à la suite de la mort. Il y a eu une répression terrible. Et pourquoi on substitue une machination, une fiction, à la place de l'histoire réelle, qui est le massacre d'une population entière, Lydie?
Comme pouvez-vous nous expliquer quels sont les points qui pouvaient rapprocher Lang et Brecht, et d'autre part, vous l'avez déjà dit, évidemment, l'opposition au nazisme, mais les raisons de leur mésentente? Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, pour que Brecht, finalement, renie pratiquement le film?
Non, ça c'est un mythe. Lang passe sa vie à citer Brecht, à dire « nous ne sommes pas expressionnistes ni l'un ni l'autre ». Et c'est pas un hasard, je pense, si Godard lui fait dire... Quand il prend comme le personnage du mépris, le metteur en scène par excellence, la phrase qu'il lui fait prononcer est la phrase de Brecht. Parce que je pense que tout le temps, simplement ce que dit Lang, Brecht ne s'intéressait pas au cinéma, il n'aimait que les idées. Mais jamais il y a eu mésentente. Je dirais même qu'il y a un certain respect entre les deux hommes et que Brecht, bien sûr qu'il râle, Brecht râle tout le temps. Il insulte les gens, il est très drôle, hein. Il faut pas se fier à son côté. Il insulte son meilleur, Hans Eisler, qui est son grand copain, et il l'engueule parce qu'il fait des travaux alimentaires au lieu de travailler avec lui. Il le traite de tout, de traître, tout ça. Donc, il faut pas se fier aux mots de Brecht. Ce que Brecht a reproché à Lang, c'est deux choses. Une chose, c'est qu'il n'a pas pris sa femme et un ami qui lui proposait pour le film.
Sa femme, Hélène Weigel.
Mais Hélène Weigel, elle était dans la troupe de Métropolis et je pense qu'elle a organisé la grève, ce qui fait qu'il y a des histoires. Bon, c'est Berlin derrière. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a plutôt entre eux à la fois des ententes de fond et en même temps des différences. Par exemple, je pense que Brecht joue sur l'élaboration des contradictions dans la représentation. C'est-à-dire comment les personnages, vous parliez du personnage qui se transforme à chaque moment suivant les étapes que jouait Peter Lorre, c'est l'évolution des contradictions du réel. Alors que Lang suit le même mécanisme, mais c'est le relativisme des apparences. Et là, il y a une différence entre les deux.
Est-ce qu'on ne pourrait pas voir aussi la différence à l'intérieur des quatre films que Lang a consacrés à l'antinazisme, Chasse à l'homme, Espion sur la Tamise, Cap et Poignard, et d'autre part, Les bourreaux meurent aussi, c'est qu'il n'y a pas dans Les bourreaux meurent aussi un personnage central,
voilà,
qui est la règle hollywoodienne, alors que c'est plutôt un collectif.
Tout à fait. Et ils s'entendent là-dessus. N'oubliez pas qu'au départ, ils veulent tourner Grand-peur et misère du Troisième Reich, c'est-à-dire une série de sketchs. Et la première séquence, Brecht voulait la mettre dans la série des sketchs de Grand-peur et misère du Troisième Reich. Et là, il y a la construction épique dont parle Doblin, c'est-à-dire ce croisement des temps. Et c'est un acteur collectif. Le véritable titre, c'est le peuple avait raison, quoi. C'est-à-dire que la question qui se pose, et c'est là que c'est intéressant, quand est-ce que l'Allemagne va se révolter contre ce monde? Et pour ça, il faut aussi démonter une illusion que nous avons en France, qui est de croire que le peuple allemand, par élection, a élu Hitler. C'est faux.
Il n'avait pas la majorité.
Non seulement il n'avait pas la majorité, mais il avait perdu 2 millions de voix quand on l'appelle au gouvernement. Il parlait de se suicider.
Merci beaucoup, Daniel Bleitrach, pour ce livre Bertolt Brecht et Fritz Lang, Le nazisme n'a jamais été éradiqué. Un livre, encore une fois, je le répète, passionnant parce qu'il va à fond dans ce film, mais aussi il évoque beaucoup plus que cela et toute la vie culturelle en rapport avec le cinéma. Donc c'est édité par Leitmotiv. C'était Projection Privée, une émission de Michel Simon. La réalisation en était de Laetitia Coya. La technique était de Bruno Mourlan et elle a été préparée par Sylvia Fabre. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr où vous aurez tous les renseignements sur cette émission. Et dans quelques instants, ce sera Une vie, une œuvre de Perrine Kerbrand.